C'est toi qui décides.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même vague? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est la mode.
Mais il y en a pour tous les goûts.
C'est quoi la mode?
La mode repose sur le mimétisme et le jeu. Et c'est un fait social, dit fait social total, car il implique profondément les individus et touche simultanément aux environnements artistiques, économiques, politiques, sociologiques, des groupes sociaux concernés, mais aussi de ceux qui sont à leur contact.
Ah, oh,
oh,
l'écologie, c'est une mode?
Non, c'est une nécessité.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbère.
Au sommaire ce mois-ci dans les allumeurs de réverbère, nous commencerons par la rubrique lecture, avec un conte, Les habits neufs de l'empereur, écrit par Hans Christian Andersen. Cette lecture sera suivie d'un point sur les actualités présentées par Clément Mousset et Myriam Samour, et par la rubrique histoire, assurée ce mois-ci par Muriel Tillard, qui évoquera pour nous les petits moments tellement réducteurs des violences sexistes et les grandes dates qui ont permis de lutter contre ces violences sexistes. Ensuite, musique, avec le titre Beds Are Burning de Midnight Oil. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons la rubrique environnement où nous partirons en virée dans le jardin d'Anne-Laure qui nous fera profiter de ses visites spéciales jusqu'à l'été. Ce moment sera suivi par la rubrique initiative actuelle et ce mois-ci, nous parlerons amour de l'artisanat et résistance à l'industrie agroalimentaire avec Ingrid de la Carotte Bistro Créatif. Et enfin, en dernière partie pour cette émission du mois d'avril 2022, nous retrouverons la rubrique élu un jour où l'élu Adrien Mottet représente d'un parti d'opposition à la municipalité en place, nous racontera ses premiers pas politiques. Nous sommes les allumeurs de réverbère et nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Allez hop, c'est parti, bonne lumière à tous.
La petite lecture.
Les habits neufs de l'empereur. Il y a de longues années, vivait un empereur qui aimait par-dessus tout les beaux habits neufs. Il dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne s'intéressait nullement à ses soldats, ni à la comédie, ni à ses promenades en voiture dans les bois, si ce n'était pour faire parade de ses habits neufs. Il en avait un pour chaque heure du jour, et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, l'empereur est dans sa garde de robe. La vie s'écoulait joyeuse dans la grande ville où il habitait. Beaucoup d'étrangers la visitaient. Un jour arrivèrent deux escrocs. Se faisant passer pour tisserand et se vantant de savoir tisser l'étoffe la plus splendide que l'on puisse imaginer. Non seulement les couleurs et les dessins en étaient exceptionnellement beaux, mais encore les vêtements cousus dans ces étoffes avaient l'étrange vertu d'être invisibles pour tous ceux qui étaient incapables dans leur emploi ou plus simplement irrémédiablement des sots.
Ce seraient de précieux habits,
pensa l'empereur.
En les portant, je reconnaîtrai aussitôt les hommes incapables de mon empire et je distinguerai les intelligents des imbéciles. Cette étoffe, il faut vite la faire tisser.
Il donna d'avance une grosse somme d'argent aux deux escrocs pour qu'ils se mettent à l'ouvrage. Ils installèrent bien deux métiers à tisser et firent semblant de travailler, mais ils n'avaient absolument aucun fil sur le métier. Ils s'empressèrent de réclamer les plus beaux fils de soie, les plus beaux fils d'or. Ils les mettaient dans leur sac à eux et continuaient à travailler sur des métiers vides jusque dans la nuit.
« J'aimerais savoir où ils en sont de leurs étoffes »,
se disait l'empereur. Mais il se sentait très mal à l'aise à l'idée qu'elles étaient invisibles aux sots et aux incapables. Il pensait bien n'avoir rien à craindre pour lui-même, mais il décida d'envoyer d'abord quelqu'un pour voir ce qu'il en était. Tous les habitants de la ville étaient au courant de la vertu miraculeuse de l'étoffe et tous étaient impatients de voir combien leurs voisins étaient incapables ou sots.
« Je vais envoyer mon vieux et honnête ministre, »
pensa l'empereur.
« C'est lui qui jugera de l'effet produit par l'étoffe. Il est d'une grande intelligence et personne ne remplit mieux sa fonction que lui. »
Alors le vieux ministre honnête se rendit dans l'atelier où les deux menteurs travaillaient sur les deux métiers vides.
« Mon Dieu !»
pensa le vieux ministre en écarquillant les yeux.
« Je ne vois rien du tout !»
mais il se garda bien de le dire. Les deux autres le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau dessin de ravissante couleur. Il montrait le métier vide et le pauvre vieux ministre ouvrait des yeux de plus en plus grands, mais il ne voyait toujours rien puisqu'il n'y avait rien.
« Grand Dieu !»
se disait-il.
« Serais-je sot ? Je ne l'aurais jamais cru et il faut que personne ne le sache. Remplirais-je mal mes fonctions ? Non, il ne faut surtout pas que je dise que je ne vois pas cette étoffe. »
« Eh, bien, vous ne dites rien, » dit l'un des artisans.
« Oh, c'est vraiment ravissant, tout ce qu'il y a de plus joli !»
dit le vieux ministre en admirant à travers ses lunettes.
« Ce dessin, ces couleurs, oui, je dirai à l'empereur que cela me plaît infiniment !»«
Ah, nous en sommes contents !» Les deux tisserands disaient le nom des couleurs, détaillaient les beautés du dessin. Le vieux ministre écoutait de toutes ses oreilles pour pouvoir répéter chaque mot à l'empereur quand il serait rentré. Et c'est bien ce qu'il fit. Les escrocs réclamèrent alors encore de l'argent, et encore des soies, et de l'or filé. Ils mettaient tout dans leur poche, pas un fil sur le métier. Et cependant, ils continuaient à faire semblant de travailler. Quelque temps après, l'empereur envoya un autre fonctionnaire important pour voir où on en était du tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Il arriva à cet homme la même chose qu'au ministre. Il avait beau regarder, comme il n'y avait que des métiers vides, il ne voyait rien. « N'est-ce pas là une belle pièce d'étoffe ?» disaient les deux escrocs, et ils recommencèrent leurs explications.
« Je ne suis pas bête, »
pensait le fonctionnaire.
« C'est donc que je ne conviens pas à ma haute fonction ?» C'est assez bizarre, mais il ne faut pas que cela se sache.
Il loua donc le tissu, qu'il ne voyait pas, et les assura de la joie que lui causait la vue de ces belles couleurs, de ce ravissant dessin.
« C'est tout ce qu'il y a de plus beau, »
dit-il à l'empereur. Tous les gens de la ville parlaient du merveilleux tissu. Enfin, l'empereur voulut voir par lui-même, tandis que l'étoffe était encore sur le métier. Avec une grande suite de courtisans triés sur le volet, parmi lesquels les deux vieux excellents fonctionnaires qui y étaient déjà allés, il se rendit auprès des deux rusés compères qui tissaient de toutes leurs forces, sans le moindre fil de soie.
« N'est-ce pas magnifique ? »
s'écriaient les deux vieux fonctionnaires.
« Que votre majesté admire ce dessin, ces teintes !»
Il montrait du doigt le métier vide, s'imaginant que les autres voyaient quelque chose.
« Comment ?»
pensa l'empereur.
« Je ne vois rien. Mais c'est épouvantable. Suis-je sot ? Ne suis-je pas fait pour être empereur ? Ce serait terrible. Oh, de toute beauté !»
disait-il en même temps.
« Vous avez ma plus haute approbation. »
Il faisait de la tête un signe de satisfaction et contemplait le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne voyait rien. Toute sa suite regardait et regardait sans rien voir de plus que les autres, mais il disait comme l'empereur « « Oh, de toute beauté !» Et ils lui conseillèrent d'étrenner la bille taillée dans cette étoffe splendide à l'occasion de la grande procession qui devait avoir lieu bientôt.
« Magnifique !»«
Ravissant, parfait !»
Ces mots volaient de bouche en bouche, tous se disaient enchantés. L'empereur décora chacun des deux escrocs de la croix de chevalier pour mettre à leur boutonnière et leur octroya le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit, qui précéda le jour de la procession, les escrocs restèrent à travailler à la lueur de 16 chandelles. Toute la ville pouvait ainsi se rendre compte de la peine qu'ils se donnaient pour terminer les habits neufs de l'empereur. Ils faisaient semblant d'enlever l'étoffe de sur le métier, ils taillaient en l'air avec de grands ciseaux, ils cousaient sans aiguille et sans fil, et à la fin ils s'écrièrent « Voyez, l'habit est terminé !» L'empereur vint lui-même avec les courtisans les plus haut placés. Les deux menteurs levaient un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose. « Voici le pantalon, voici l'habit, voilà le manteau !» et ainsi de suite. « C'est léger comme une toile d'araignée, on croirait n'avoir rien sur le corps, c'est là le grand avantage de l'étoffe !»«
Oui, oui !» dirent les courtisans de la suite. Mais ils ne voyaient rien, puisqu'il n'y avait rien.
« Votre majesté impériale veut-elle avoir l'insigne bonté de retirer ses vêtements afin que nous puissions lui mettre les nouveaux ?» Là, devant le grand miroir, l'empereur enleva tous ses beaux vêtements et les escrocs firent des gestes de lui en mettre, l'un après l'autre, des nouveaux qui étaient soi-disant cousus. Ils se prenaient par la taille et faisaient semblant d'attacher quelque chose. C'était le manteau de cour. L'empereur se tournait et se retournait devant le miroir. « Dieu !
Comme cela va bien !»«
Comme c'est bien pris !» disait chacun. Quel dessin, quelle couleur!
Voilà des vêtements luxueux.
Ceux qui doivent porter le dé au-dessus de votre majesté ouvrant la procession sont arrivés,
dit le grand maître des cérémonies.
Je suis prêt,
dit l'empereur.
Est-ce que cela ne va pas bien?
Et il se tournait encore une fois devant le miroir pour faire semblant de bien tout examiner. Les chambellans, qui devaient porter la traîne du manteau de cour, tâtonnaient de leurs mains le parquet et les élevaient ensuite comme s'ils ramassaient cette traîne. Ils se mirent à marcher, les mains levées, comme s'ils portaient quelque chose. Ils ne voulaient pas que l'on aperçût qu'ils ne voyaient rien. Et c'est ainsi que l'empereur marchait devant la procession sous le magnifique dé et tous ses sujets dans la rue et aux fenêtres s'écriaient « Dieu ! Que le nouvel habit de l'empereur est admirable !
Quel manteau !
Avec traîne de toute beauté !
Comme elle s'étale avec splendeur !
Personne ne voulait avouer qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait montré qu'il était incapable dans son emploi, ou simplement un sot. Jamais un habit neuf de l'empereur n'avait connu un tel succès.
« Mais il n'y a pas d'habit du tout !»
cria un petit enfant dans la foule.
« Grand Dieu ! Entendez, c'est la voix de l'innocence !»
dit son père. Et chacun de chuchoter de l'un à l'autre
« Il n'a pas d'habit du tout !»«
Il n'a pas d'habit du tout !»« Il n'a pas d'habit du tout !»«
Il n'a pas d'habit du tout !»
cria à la fin le peuple entier. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien que tout son peuple avait raison. Mais il pensait en même temps qu'il fallait tenir bon, jusqu'à la fin de la procession. Il se redressa encore plus fièrement et les chambellans continuèrent à porter le manteau de cour et la traîne qui n'existait pas.
Les allumeurs de réverbères.
Business et code du travail. Alors que la plateforme de livraison Deliveroo vient d'être condamnée à 375 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour travail dissimulé, un constat. Si on s'intéresse à ce que votent les députés français d'extrême droite au Parlement européen de Bruxelles, on s'aperçoit que la protection des travailleurs ubérisés et la lutte contre les abus des multinationales ne font pas du tout partie de leurs préoccupations. Conflit ukrainien. Accusé par le président Zelensky de financer la machine de guerre de la Russie, certaines grosses entreprises françaises cotées au CAC 40 n'ont toujours pas quitté le territoire russe. Il s'agit notamment des entreprises du groupe Mulier, comme Auchan ou Leroy Merlin. La famille Mulier possède pour information la 7e fortune française, estimée à 24 milliards d'euros. Conflit en Ukraine, répercussions. Aucun pays d'Amérique latine n'a adopté de sanctions économiques contre la Russie et la guerre n'est pas franchement condamnée. Le phénomène s'explique en grande partie par une farouche volonté de se démarquer des États-Unis avec une opposition croissante aux principes classiques du libéralisme que sont le marché libre, le multilatéralisme et les règles démocratiques. L'influence de Moscou en Amérique du Sud grandit, notamment car les premiers vaccins contre le Covid sont arrivés de Russie, les vaccins Sputnik, et non des USA, restés indifférents à la situation des pays du sud du continent. Réchauffement climatique. Venise se vide et sa population vieillit. Avec un pic de population en 1950 avec 175 000 habitants, Venise perd en moyenne 700 âmes par an et compte aujourd'hui un peu plus de 50 000 habitants. Certes, la hausse des loyers et le tourisme de masse jouent dans cette équation, mais le réchauffement climatique tient un rôle très important. L'élévation progressive du niveau des mers fait que les rez-de-chaussée et les premiers étages sont devenus des logements les plus insalubres, avec un taux d'humidité tellement élevé qu'ils ne peuvent plus être occupés. On peut parler de réfugiés climatiques car les Vénitiens obligés de quitter leur logement n'ont en général pas les moyens de se payer un nouveau logement dans les étages et sont obligés de se loger dans d'autres villes du pays.
Le parquet national financier remplit-il bien son rôle? Les équipes du parquet se posent la question et le directeur Jean-François Bonner est pointé du doigt. Déjà en 2019, Éliane Houlette, la première dirigeante du parquet national financier de 2014 à 2019, était accusée par son second, Patrice Amar, d'incompétence, d'inexpérience et de panique, convaincue qu'elle aurait permis à l'ancien président Nicolas Sarkozy de découvrir la mise sur écoute de sa ligne cachée au nom de Paul Bismuth. C'est maintenant le tour de François Bonner, directeur depuis 2019, d'être mis en cause pour lenteur. Malgré l'invitation faite par la commission sénatoriale du 17 mars dernier, il aura fallu plus de 2 semaines à Jean-François Bonner pour ouvrir une enquête concernant les accusations de blanchiment aggravé de fraude fiscale visant le cabinet de conseil américain McKinsey, auquel M. Macron a eu tant recours pendant son mandat. Il y a à parier que la tribune collective, parue dans Marianne, dont plusieurs magistrats, sous couvert d'anonymat, sont auteurs, aurait aidé à l'ouverture de l'enquête, qui, selon eux, mériterait l'intitulé, en plus de fraude fiscale aggravée, de détournement de fonds et de conflit d'intérêts. Et ce n'est pas tout. Les méthodes managériales du parquet national financier semblent elles aussi à revoir. La diffusion d'une fable envoyée par messagerie par Jean-François Bonner, le directeur, aux équipes du parquet national financier, est d'une violence ahurissante. Le directeur invite ses équipes, à travers une fable parlant de procès d'animaux et de mise à mort, à cela fermer très explicitement. Heureusement, c'était par écrit, le directeur n'a pu alors qu'admettre les faits et il affirme qu'il regrette son message. Attention, des tiacs possiblement toujours en circulation dans vos frigos. Reportage spécial. La salmonellose dans les œufs Kinder. Les produits ont été rappelés en Belgique le 4 avril, en France le 5 avril. Pourtant, le manque de médiatisation inquiète, surtout en période de Pâques. Les produits sont toujours en circulation dans de nombreux pays, et notamment en Suisse, où 24 cas ont été recensés la 3e semaine d'avril et 120 cas dans toute l'Europe. La plupart des personnes infectées sont des enfants de moins de 10 ans qui ont dû être hospitalisés. Au moindre doute, rapprochez-vous de votre médecin et de Santé publique France. Lactalis. Bien que le rappel des produits ait cessé le 19 avril, quand il est question de fromage, mieux vaut s'assurer de ne pas en avoir laissé traîner dans son frigo ou dans celui des autres. L'affaire concerne la marque Grain d'Orge, rachetée par Lactalis en 2016, les Brie et les Coulommiers. Cette fois-ci, c'est la listériose que risque le consommateur. Chez une personne âgée ou immunodéprimée, la listériose peut entraîner des vomissements, de la diarrhée ou de la constipation, des maux de tête, de la fièvre, voire une méningite ou une septicémie. Une hospitalisation est nécessaire dans plus de 90% des cas et le décès survient chez 25 à 30% des personnes concernées. Les fromages concernés ont été commercialisés dans la France entière depuis la mi-mars, dans les supermarchés des enseignes Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché, Cora, Système U, Shiver, les épiceries Nous Anti-Gaspi et concernent un Coulommier commercialisé par Franprix. Nestlé. L'alerte concerne les pizzas Fresh Up des filiales Buitoni du groupe Nestlé. Il s'agit de la bactérie Escherichia coli. L'affaire a commencé en janvier. Malgré les alertes lancées, les fabriques de pizzas n'ont été fermées que le 18 mars 2022. Au 13 avril, l'Agence Santé publique France avait recensé 53 cas confirmés, dont 2 enfants décédés et enquêté sur 26 autres. 15 pays africains sont aussi concernés par la distribution de ces pizzas du groupe Nestlé, très dangereuses pour la santé.
Mais maman, qu'est-ce qu'on fait là ?
Je sais pas, mon chéri. Et puis, ils t'ont pas demandé ton avis.
Raconte-moi une histoire.
Laquelle ?
L'histoire de quelqu'un qui s'est rêvé ?
Oh, tu veux du rêve ? Tu veux du rêve, mon petit bonhomme ! Mais va peut-être falloir penser à les réaliser.
Genre...
Quand le singe montre la lune, l'idiot regarde en bas. Et le sage lui fait un doigt.
On est bien là, hein ?
Les allumeurs de réverbères.
Aujourd'hui, je voudrais dénoncer les violences sexistes ordinaires. Ce sujet est vaste, lourd, et je ne savais pas par quel angle l'aborder. Alors je suis partie d'une parole d'une amie. Voici. Isa me raconte que lors d'une réunion commerciale avec des clients, une femme passe à côté d'elle et de ses collègues commerciaux. L'un d'eux donne un coup de coude à un autre et d'un rire gras lui sort. « T'as vu, salope ?» Et tous de se marrer. Isa, ne comprenant pas, regarde la femme, habillée, mini-jupe, talons compensés. Bon, pas son goût, mais salope. Un de ses collègues lui explique « Bah oui, chaînette égale quéquette !» Alors là, je ne comprends pas non plus et je demande une explication à Isa. En fait, la femme portait une chaînette à la cheville. « Ah, ok. Ça me rappelle d'un coup l'expression des années 80, femme à lunettes, femme à quéquette, et Isa de culpabiliser. « J'ai rien dit. Non mais tu te rends compte, j'ai rien dit. J'aurais même souri à cette blague de merde. Et quand je leur en ai parlé 2 mois plus tard, pour eux, ils ne voient pas où est le problème. « Bah Isa, c'est qu'une blague, oh ça va. Et puis tu sais, je suis pas comme ça dans la vraie vie. » T'es pas comme ça dans la vraie vie. Isa me raconte aussi les petits propos sexistes ordinaires avec les collègues, comme un matin où elle est arrivée en robe et un collègue lui sort « Oh, une femme !» Ou bien encore un autre collègue qui, alors qu'il passait devant elle et qu'il était au téléphone, sort « Oh, Isa, oh, 95D !» Ok. Alors je me suis demandé où on en était des droits de la femme aujourd'hui en 2022. Alors bon, ok, on revient de loin. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, le père peut nous marier à 10 ans, on peut même être fiancé à 10, et que notre avenir consiste à procréer. Et broder, si on est noble, ou bosser dans les champs, dans le cas contraire. La Révolution française ne changea pas grand-chose, et même au contraire, en 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Bon, fin 19e, on a le droit d'aller à l'école, en 44, on a le droit de voter. En 1946, la loi garantit même à la femme des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines. Mais c'est à partir des années 60 où les femmes commencent, à force de gueuler, à obtenir plus de droits. Gérer ses biens, son salaire, bosser sans avoir à demander le consentement de son mari, puis la contraception, l'autorité parentale conjointe, le droit à l'avortement, le viol reconnu comme crime, y compris celui commis par le mari, l'égalité professionnelle, la parité femmes-hommes, la féminisation des noms des métiers, l'égalité des chances, la lutte contre les violences faites aux femmes, la suppression des écarts de rémunération, la contraception gratuite et depuis 2017, le renforcement de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, la PMA pour les femmes. Je vous passe tous les décrets, toutes les lois votées depuis début 2000. J'ai réalisé qu'il y a vraiment des avancées au regard de la loi. Le droit des femmes est quand même bien pris en compte. Mais alors, pourquoi n'avançons-nous pas ou prou ? Pourquoi l'égalité salariale n'existe toujours pas ? Et comment se fait-il que des propos sexistes soient toujours omniprésents ? Pourquoi doit-on être encore et toujours en lutte ? Qu'est-ce qu'une femme peut bien titiller chez certains pour oser sortir des propos aussi lourds et graveleux ? À quel endroit ça se pose chez eux ? Quelle est la solution pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que la femme n'est pas une salope parce qu'elle a une chaînette à la cheville ? Et quand bien même, la femme a bien le droit d'être ce qu'elle veut, une salope si ça lui chante. Pour rappel, l'outrage sexiste consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui lui porte préjudice. L'acte doit porter atteinte à la dignité de la victime en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou l'exposer à une situation intimidante, hostile ou offensante. Par exemple, faire des commentaires à connotation sexuelle sur une femme qui passe dans la rue. Je vous conseille de regarder H24, une mini-série de très très court sur arte.tv et de relire ou lire King Kong Theory, le classique de Virginie Despentes.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
Et
Dès maintenant, Beds Are Burning, cette composition du groupe australien Midnight Oil, est une chanson politique qui réclame la restitution de leur terre natale aux aborigènes Pintupi. Les auteurs Peter Garrett, Jim Mogini et Rob Hurst adressent un message écologiste et interpellent sur l'urgence d'une prise de conscience concernant l'impact des activités humaines sur la planète. Ce morceau est présent dans l'album Diesel and Dust, sorti en 1987.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep?
C'est les allumeurs de réverbères. La rubrique environnement.
Pour découvrir la photo sonore de cette émission, rendez-vous sur le site internet allumeur-de-reverbère.fr.
Je vais te parler de la consoude. Je pense que c'est en fait une plante qui est très intéressante, déjà d'une part parce qu'elle fait partie de ces plantes qui sont très présentes au printemps. Donc il faut savoir qu'en hiver, elle disparaît totalement et elle revient comme ça au printemps. Et donc la consoude, pourquoi moi elle m'intéresse? Parce que déjà elle est super sympa comme ça dans les premières plantes du printemps. Ceux qui connaissent les coucous, ça ressemble énormément aux coucous. Là, celle qu'on a sous les yeux, c'est une consoude qui est plutôt blanche. Alors c'est très drôle d'ailleurs, elle fait un bouton rose. Puis elle se développe en une trompette blanche avec une base bleutée. Donc c'est vraiment un truc étonnant déjà dans, je dirais, l'évolution des couleurs sur cette plante. Et au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui vont souhaiter faire des apports en engrais dans leur jardin, mais en engrais naturel, on peut utiliser la consoude pour ça. Et faire les fameux purins naturels. Donc un purin, en général, hein, ça se fait avec de l'eau de pluie. Et puis, différents végétaux. Alors la consoude est parfaite pour ça. En gros, on fout des plantes consoude dans de l'eau de pluie. On attend un certain temps. Alors en général, c'est à peu près une semaine. Faut pas le laisser trop longtemps, parce qu'un purin peut être tellement chargé qu'il va presque être trop concentré en bonnes choses, et ça peut des fois, si vous le remettez sur votre sol, altérer le sol tellement le purin est actif et vivant. Donc quand on utilise du purin, il faut l'utiliser avec parcimonie, hein, en général, la même petite quantité dans un arrosoir, et puis on parsème comme ça dans le jardin. Je pense soudainement à l'étymologie du mot consoude, parce qu'il y a des choses très intéressantes aussi en termes de plantes médicinales. Alors déjà, l'étymologie consoude, bah, on a bien le côté qui soude, d'accord ? Et effectivement, la consoude, en cosmétique, on est sur une plante qui va être parfaite pour réparer la peau. Voilà, et la peau va venir se ressouder grâce à la consoude. Alors pour utiliser la consoude en cosmétologie, c'est un truc justement que je voulais m'atteler à faire prochainement, donc je pourrais peut-être en reparler plus tard. Je voulais faire ce qu'on appelle des teintures mères, ou tout au moins des préparations, des macérats huileux. Donc un macérat huileux, c'est qu'on part d'une huile, hein, une huile végétale. Alors là, on choisit l'huile qui nous convient. Ça peut être de l'huile d'olive, hein, tout simplement, mais ça peut être de l'huile de macadamia ou que sais-je, en fonction de notre budget aussi. Et pour le macérat huileux de consoude, il faut utiliser la racine de consoude qu'on va faire macérer comme ça dans l'huile. Et après, bah, tout simplement, l'huile peut être utilisée en produit de beauté, alors anti-rides, et puis potentiellement pour des cicatrices aussi. Donc tout, partout où la peau a été altérée.
Tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison. Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh!
Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Oh! Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Bonjour, résistante. Qui es-tu et où sommes-nous?
Je suis Ingrid, la gérante de la Carotte Bistrot Créatif. Et avant d'être tout ça,
Eh bien, j'ai été animatrice, coordinatrice de Manche et Bio 53. C'est ce qui m'a un petit peu donné envie, justement, de me dire qu'on pouvait avoir des produits bio dans nos assiettes ailleurs qu'à la maison. Avant, j'ai eu aussi des enfants qui m'ont permis un petit peu de me sensibiliser et me dire « Tiens, j'ai envie de faire attention à ce que je mange pour eux. » Mon parcours d'études, c'est j'ai fait des études pour être prof de sport. Faire une formation quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, hein, c'est compliqué. Donc on regarde ce que les autres font, ce que nos parents font, et on choisit un petit peu en fonction de ce qu'on aime, en oubliant pour ma part ce qui était important pour moi, de me réaliser et de créer. Je suis Ingrid, la gérante de la Carotte Bistrot Créatif. C'est un restaurant, mais pas que. C'est un endroit où on peut avoir des expositions, des concerts, un lieu de créativité partagée, où les gens ils peuvent exprimer ce qu'ils ont envie. C'est un endroit où on va jouer, où on va rencontrer du monde, un endroit où on va se détendre, où on va se réchauffer ou prendre l'air au bord de la Mayenne. L'idée, c'était justement de créer un endroit un peu où on se sent comme chez nous, mais ailleurs que chez nous, puisqu'on se fait servir avec le sourire et surtout avec des produits de qualité, un cadre de qualité, ailleurs que chez vous. C'est la Carotte Bistrot Créatif.
Selon toi, Ingrid, qu'est-ce que l'artisanat ?
L'artisanat, en fait, pour moi, il y a le mot « art » dedans. Pour moi, c'est créer quelque chose de ses mains. Au fond, nous, on exprime des émotions. Alors, ça va être le boulanger à travers son pain, moi dans ma cuisine, on va avoir les maçons, ça va être à travers autre chose, monter un mur de pierre. Mais pour moi, l'artisanat, il y a quelque chose d'authentique, c'est-à-dire qu'en fait, on s'exprime soi. C'est de nous qu'on donne, comme un musicien, comme un chanteur, qui va venir vous raconter quelque chose. Ben, nous, on le raconte, mais autrement, avec nos mains.
Faire 100% bio, est-ce que c'est possible ? As-tu des conseils à nous donner ?
C'est possible. La première chose, la plus importante, c'est d'en avoir envie. Pas dans le sens, j'ai envie de faire du bio pour toucher les gens parce que c'est bio. C'est j'ai envie de faire vivre mon terroir. J'ai envie de faire vivre des producteurs. Je veux développer l'agriculture biologique. Et donc, c'est un engagement plein. C'est-à-dire qu'on n'a pas un relais, on a 30 producteurs avec qui on doit entretenir un lien. Donc, c'est hyper important d'avoir envie. Après, il faut aussi apprendre à cuisiner autrement. Ici, on va avoir, je ne ferai pas dans l'assiette 150 grammes, 200 grammes de viande comme dans d'autres restaurants. Je fais le choix d'avoir des grammages plus petits. On y ajoute des légumes. On travaille plus sur de la cuisine dite alternative pour pouvoir permettre de compenser un petit peu le surcoût de la matière. Mais aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il faut avoir assez de passages pour avoir une clientèle assez régulière qui nous permette de vivre. Parce que vu qu'on fait des toutes petites marges, dès qu'on se casse la figure en termes de fréquentation, on fait un trou dans la trésorerie qui est énorme. C'est vraiment ça le gros challenge. C'est-à-dire que dans d'autres commerces où on va avoir des marges plus importantes parce qu'on a des coûts d'achat matières qui vont être moins importants, du coup, c'est vrai que ça nous permet un petit peu de compenser sur le manque de fréquentation. Sauf que ici, en fait, les marges, elles sont tellement réduites que si on est juste pile poil, c'est trop juste.
Bonjour, je suis restaurateur. J'ai toujours été dans des grandes surfaces pour professionnels. Comment est-ce que je peux commencer à faire du bio local ?
Alors, il y a plusieurs relais. Déjà, ça va être de discuter avec les producteurs de là où on habite. Il y a le CIVAM Bio 53, d'accord, qui a un catalogue, on va dire, un petit peu, ou en tout cas un référencement de tous les producteurs bio mayennais. Il y a une association qui s'appelle Manger Bio 53, qui aujourd'hui donc, s'adresse uniquement en approvisionnement à la restauration collective, mais qui peut être un bon relais. Je l'inviterai aussi à aller fréquenter des commerces épiceries déjà en bio, donc que ce soit des plus grands magasins type Biocoop ou alors plus petits comme l'épicerie coopérative à Fontaine Daniel, qui sont des bons relais puisque eux ils ont le lien. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse échanger entre nous, parce que je pense que tout le monde connaît un gars à côté, à droite, qui lui fait les œufs, lui la bière, et que si on pouvait nous échanger entre nous et avoir d'autres restaurateurs qui puissent transmettre en fait les petits trucs, les petits les petites adresses, les contacts qui vont bien, bah, ce serait tellement plus facile.
Quand on est artisan des métiers de bouche et qu'on veut faire des réductions de consommation d'énergie, comment faire et quel point viser ?
Alors déjà, le chauffage, clairement. Moi ici, j'ai fait le choix d'être sur un poêle à peler pour économiser, pour avoir le confort d'avoir une chaleur importante. Avec moins de consommation. Les leviers qu'on doit trouver, c'est de s'équiper en bon matériel. J'ai fait le choix de faire de l'occasion parce que économiquement, il fallait lancer l'affaire. Malheureusement, le matériel d'occasion consomme souvent plus que du matériel récent. Et donc, c'est là où on peut vraiment faire des économies. Mais il faut savoir qu'avec la Chambre de commerce et France Relance, il y a des aides. On peut être aidé pour s'équiper de matériel, pour pouvoir mieux stocker, que ce soit une chambre froide, avoir un lave-vaisselle plus performant, qui a une résistance qui consomme beaucoup moins. Donc, il y a des moyens, mais il faut se faire accompagner parce que clairement, c'est un peu comme le lot de tous les privés. Si on veut moins consommer, il faut investir.
Quelles sont pour toi les grandes différences entre l'industrie et l'artisanat ?
Moi, je fais tout le temps quelque chose de différent. Donc en fait, tous les jours, on se met en danger. Tous les jours, je crée une nouvelle recette. Pas parce que je déborde d'idées tout le temps, mais parce qu'en fait, je fais avec ce que j'ai. Forcément, ce que j'ai au mois de juin, ce ne sera pas la même chose qu'au mois d'octobre. Donc tout le temps, il faut se mettre en danger pour à nouveau créer. Alors que quand on est sur un industriel, lui, en fait, il va créer et il va d'ailleurs consommer, acheter pour pouvoir produire ce qu'il a prévu. Et il reste dans son petit travail à la chaîne, hein, clairement. Hein. Donc nous, on le fait hein, quand on fait 90 muffins. Clairement, on ne fait pas un par un, on remplit. On a des gestes qui sont mécaniques. Mais sauf qu'en fait, au quotidien, c'est pas ce qu'on fait.
Quelles sont les difficultés que rencontrent les entrepreneurs, artisans des métiers de bouche actuellement ?
Allier le perso avec le pro. Et donc l'idée c'était de se dire, bah, moi j'ai pas envie de créer un restaurant comme les autres où on est ouvert 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. En fait j'ai 3 enfants, j'ai une vie, j'existe en dehors, je ne suis pas que Ingrid de la carotte, hein, je suis Ingrid aussi. J'ai toujours voulu avoir des salariés qui travaillent 35 heures maximum. Même dans l'idéal, alors il y a encore avant le Covid, mon rêve c'était d'avoir deux équipes, une équipe qui travaille le week-end parce que ça lui dit trop, une équipe qui travaille la semaine, chacun fait que 30 heures, il se donne à fond pour tout et on a un responsable de semaine, un responsable de week-end, enfin voilà, j'avais vraiment l'utopie d'une entreprise différente où il fait bon vivre, bien travailler, être bien rémunéré et avoir des gens du coup qui sont tout le temps, qui ont tout le temps envie de recevoir les autres quoi. Bon, bah, la réalité économique fait que ça ne se passe pas comme je voudrais et que malgré tout, une chose que les gens ne voient pas, par exemple, pendant la saison hivernale, on était ouvert donc les vendredis, samedis et un dimanche par mois. Juste moi, vendredi, samedi, juste en temps de présence, hein, je ne parle même pas des courses, du démarchage, de la programmation, juste en temps de présence, je fais 34 heures sur deux jours, 34 heures sur deux jours. Quand on commence à 8 heures, qu'on finit à 1 heure ou 2 heures du matin, en fermeture publique, hein, je parle, attention. Hein. Et l'été, à titre d'info, je fais à peu près 90 heures. Oui, c'est compliqué en fait à long terme. Ça fait 5 ans aujourd'hui. J'aime ce que je fais, mais j'ai pas encore trouvé la manière d'exister puisque moi, je veux rester dans des produits frais. Je veux pas avoir de poche sous vide. Je veux pas faire du surgelé. En fait, je veux me respecter. C'était ça aussi la carotte. C'était de proposer ce que je suis. Et aujourd'hui, peut-être que ce que je propose, ça ne touche plus les gens de la même manière. Mais je ne veux pas me travestir. Malheureusement, il y a eu pas mal d'embûches. Et aujourd'hui, on ne touche pas les gens pareil.
Les allumeurs de réverbères.
La rubrique élue un jour.
Bonjour, je suis Delphine, je vous présente aujourd'hui Solène Ménager.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Pierre Le Scurvette.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Mélanie.
Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Adrien Mottet.
Donc je m'appelle Adrien Mottet.
Bonjour à tous, donc Solène Ménager.
Jean-Pierre Le Scurvette.
Bonjour, je m'appelle Mélanie Firmès.
J'aimerais savoir depuis quand remontent vos premiers engagements politiques.
Donc je m'appelle Adrien Mottet. Ça fait relativement longtemps. Moi, mon premier souvenir politique que j'ai, au sens très large du terme, c'est la passation de pouvoir entre François Mitterrand et Jacques Chirac en 1995. Alors, j'avais 7 ans, je me souviens très bien être assis sur le coin de la table basse chez mes parents à regarder la télé, et en me disant que je regardais quelque chose d'important, sans avoir aucune notion de ce que c'était. Mais j'avais l'impression de regarder quelque chose, un moment important. Au fur et à mesure, je me suis toujours intéressé à la politique, parce qu'au début c'est le décorum hein, qui est le plus frappant, et après quand on commence à grandir, on commence à rentrer dans le fond du sujet. Et en fait, l'engagement public m'a toujours intéressé. J'ai toujours été délégué de classe de mon CE2 à ma terminale, parce que voilà, ça m'intéressait de porter des projets pour un groupe. J'ai fait venir des parlementaires dans mon collège. Au lycée, j'ai co-organisé avec mes profs une visite à l'Assemblée nationale. Bon, voilà, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Et quand j'ai fait mes études, j'ai commencé par une prépa littéraire. J'avais tenté Sciences Po après le bac, j'ai pas eu les concours. Et après ma prépa, j'ai retenté les concours. Si je les avais pas, je partais en CAGN, spécialité histoire géo, pour devenir prof d'histoire géo, ce que j'ai toujours voulu faire à la base. Et si j'avais les concours, je rentrais à Sciences Po. Et j'ai eu le concours de Sciences Po Lyon. Et c'est là où, pour le coup, la partie politique a pris plus d'ampleur, parce que c'était le cœur de ma formation. Mais quand je dis politique, c'est pas de la politique politicienne, c'est-à-dire c'est de la politique publique. C'est-à-dire comment on met en place des politiques publiques, quelle que soit la collectivité dans laquelle on travaille ou dans laquelle on est élu. Donc c'est comme ça que j'ai appris les fondements de l'action des collectivités. Et naturellement, j'ai envie de dire, ça m'a amené à m'engager politiquement. Mes premiers engagements politiques datent de 2007. J'ai voté pour la première fois de ma vie le jour de mes 19 ans, donc le 22 avril 2007, au premier tour des élections présidentielles. J'ai vraiment eu l'envie de m'investir quand je suis rentré en Mayenne après mes études. Vraiment eu envie de m'investir localement pour porter des projets. Ça a commencé par une candidature aux élections départementales en 2015, où j'étais candidat remplaçant sur le canton de Mayenne. J'ai créé une association à Mayenne en 2016 qui s'appelle Mayenne Perspective, dont je ne suis plus le président, mais qui avait pour but de réfléchir sur la chose publique à Mayenne. Et on m'a beaucoup, beaucoup sollicité pour former un collectif pour les élections municipales de 2020, ce que j'ai fait avec plaisir. Et donc j'étais tête de liste en 2020 aux élections municipales.
Et voilà, les allumeurs de réverbères, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles rubriques, de nouveaux sujets et encore plus de rédacteurs. D'ici là, si vous souhaitez en savoir davantage sur l'équipe, connaître les détails de l'émission, participer au loto citoyen, rendez-vous sur notre site internet allumeurs-de-reverbères.fr et sur les réseaux sociaux @allumeurs-de-reverbères. Retrouvez aussi l'émission en écoute sur l'autre radio, 107.9 Château-Gontier, 101.7 Laval, l'autreradio.fr et en podcast sur Spotify. Cette émission a été réalisée par Clément Mousset, Delphine Ramon, Myriam Samour, Muriel Tillard, avec la participation d'Antoine Lair, d'Adrien Mottet, d'Anne-Laure Rousseau et d'Ingrid de la Carotte Bistrot Créatif. Coordination, montage et habillage musical par Happy London Call. Nous sommes les allumeurs de réverbères et nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous.
Salut.
Salut petite.
Au plaisir.
Au revoir, au revoir. C'était un plaisir de vous rencontrer.
Non mais vous allez pas en faire des tonnes non plus, on soit bien.
Georges, vous êtes un sacré grognon.
Wow, 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 partez pas si vite. Vous oubliez quelque chose, il me semble.
De quoi il parle ? Ah non, 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 je vois pas, ça c'était marqué, servez-vous.
Mais de quoi vous parlez ?
Et vos petits amis, là ? Allez !
Vous était proposé
part.
Les allumeurs de réverbères.